Bonsoir, c'est Ondes Noires, l'émission polar la plus rock de la bande FM.
Présentée par Jacques.
Et par Corinne.
Bonsoir, et bien dans cette première partie d'émission, nous allons vous parler d'un de mes grands coups de cœur de l'automne, de la rentrée, puisque c'est un livre qui vient de paraître à la série Noire. Nous allons parler aujourd'hui de La langue chienne. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir dans notre émission Hervé Prudhon, son auteur. Bonsoir Hervé.
Allô, bonsoir.
Bonsoir et merci beaucoup de nous rejoindre, de passer quelques instants avec nous. Donc, quelques mots, on va dire, sur votre carrière. Je crois que votre premier livre date de 78, Mardi Gras, c'est cela ?
Mardi Gris.
Voilà.
Mardi Gris,
pardon.
Si ça te plaît.
Pourquoi ?
Donc, c'est pas grave.
En pleine époque.
Oui, ça fait 30 ans exactement.
Oui, voilà, on peut fêter. C'est une époque qu'on a un petit peu appelée, vous faites partie de la mouvance, qu'on a un petit peu appelée le néo-polar. Vous le revendiquez ou c'est un terme qui vous plaît pas trop ?
Ni l'un ni l'autre. Ça s'est trouvé comme ça, je veux dire, c'est comme on avait parlé de la nouvelle vague. Il s'est trouvé qu'on était une petite poignée d'auteurs à la fin des années 70, avec des intérêts différents, des façons d'écrire différentes. Mais on se retrouvait dans le genre noir et qui était assez peu exploité en France. Et puis on parlait de la France d'une façon dont ne parlaient pas les autres littératures, quoi.
Oui, et ça
donc
continue d'ailleurs.
On a parlé de il y avait un fond de il y avait un c'était 10 ans après 68 et je crois qu'il y avait une sorte de petite revanche par écrit à prendre sur 68, une revanche complètement illusoire bien sûr, mais c'était ça le néopolar.
Ben, je crois que vous continuez alors, parce que je viens de relever une phrase que vous venez de dire. Donc, c'est une façon de parler de la France dont on n'avait pas l'habitude. Et je trouve que ça définit. Enfin, c'est une des façons de définir complètement la langue chienne, puisque l'action, ce roman se situe dans le nord de la France. Et les descriptions même. Avant de parler des personnages et de l'argument, les descriptions même de cet endroit, c'est quand même assez singulier. Ça donne pas très envie d'aller y passer des vacances.
Ben, c'est pourtant ce que j'ai fait.
Oui, apparemment, oui.
Pour mon plus grand plaisir. Et il y a à la fois eh bien, ce qu'on trouve dans la vie, un peu où qu'on soit. Il y a des... Moi, j'ai trouvé qu'il y avait des paysages superbes. Je cite toujours à ce sujet Nicolas Stahl, où il y a des gris, des bleus et des couleurs qui se fondent un peu, ou qui se juxtaposent et qui sont à la limite de l'abstraction. Et d'un autre côté, il y a une trivialité qui appartient au Nord, qui n'est pas forcément de la vulgarité ni de la grossièreté, mais qui est de la rudesse, beaucoup de rudesse. Je crois qu'à un moment, je n'ai que naître ici, c'est entrer en résistance. Et c'est vrai que, comme il y en a qui vont au ski ou d'autres à la mer, aller dans le nord, c'est aller au vent. Déjà, sortir de sa maison, c'est lutter contre le vent. Ça commence comme ça, quoi. Je veux dire, la vie dans le nord. Alors, évidemment, oui, c'est voir le nord, non pas comme chez les ch'tis, mais comme ça, avec tous les faits divers qu'on peut voir s'y passer. Moi, j'ai pris un fait divers qui ne se passait pas d'ailleurs dans le Nord. Et c'est vrai que c'était aussi une façon de montrer le crime dans ce qu'il y a de plus banal. Et,
je dirais dans sa quotidienneté.
Et de plus quotidien, quoi.
Voilà. Ben justement, vous venez de citer une phrase. Je vais lire une petite passage qui est du début du roman. Où on retrouve cette phrase, je n'avais pas fait exprès, mais c'est un passage
d'accord.
Qui me plaît beaucoup. Les barbares commencent à Calais, disent les Anglais. Entre Outreau et Sangatte, la vie n'est pas sale, même si, dans une eau plus bleu-marron que bleu-marine, l'Europe continentale finit là brusquement, brutalement, au pied de la falaise. Mais les sternes de mer, les moutons en dentelle sur les picots des vagues, les chevaux dans les champs salés de pluie, saoulés de vent, ils ne mentent pas. Ils ne pensent pas, ils tiennent, savent se tenir. Ils ne sauraient ailleurs être mieux. Les albatros, leurs ailes de géant les obligent à voler. Et les mouettes ne chantent pas, ne gémissent pas, elles rient. Pleines de vie en plein vent. Elles n'ont pas semé le vent, mais elles s'assoient dessus. Dessous, les hommes récoltent, dégustent, collectivement, peuple de sacrifice. Naître ici, c'est entrer en résistance. Voilà, je trouve que ça illustre parfaitement ce que vous venez de dire avec les couleurs, avec ces gens qui luttent quelque part et qui parfois, dans la sombre histoire du quotidien, arrivent à des extrémités meurtrières. Donc on va peut-être présenter les personnages. Il y a Martin, dit Tintin.
Et Martin, puis... lui, dit Tintin. Tintin plus que Martin, je dirais. Lui vient de la banlieue parisienne et il vient d'une autre culture que les autres. Je vais les appeler les autres pour l'instant.
Voilà.
Il vient de la classe moyenne et il a fait des études et il a la tête pleine de mots, on pourrait dire.
Tout à fait.
Et les autres, c'est d'abord Gina.
Voilà.
Qui est presque le personnage principal, le personnage central, qui est sa femme, qui elle est un personnage un peu caoutchouteux, extrêmement organique, sensuel, pas belle, mais qui a vraiment et qui dont l'univers est la télé. Mm. Accessoirement le sexe, accessoirement la bière, mais c'est quelqu'un qui se fout de tout et elle voudrait même pas être ailleurs. Je veux dire, elle est bien là-bas, assise sur son tas de fumier, on pourrait dire.
C'est un petit peu ça.
Et l'autre, le troisième personnage, qu'on pourrait appeler l'amant, si c'était un drame bourgeois, c'est Franck. Lui, Franck, c'est 1m90, large d'épaule, sans doute une petite bedaine parce qu'il picole toute la journée, la bière bien sûr. Et ancien champion de char à voile, c'est le gars c'est le vide absolu, quoi. Et donc, il s'entend très bien avec Gina. Et...
Surtout qu'il a un côté sexe aussi, quand même, aussi, beaucoup, Franck.
Aussi, forcément, c'est... Il y a un côté bestial chez, ou animal, j'ai dit.
Animal.
Chez Gina, comme chez Franck, alors que Tintin est un cérébral. Et c'est Tintin le génère, c'est pas les deux autres.
Alors juste...
Mais par contre, le bouquin est vu du point de vue de Tintin, qui lui subit de plus en plus son sort, qui est jusqu'à devenir presque la soubrette des deux autres.
Ah oui, et qui va subir jusqu'à ce que la corde va trop se tendre. Alors, Gina, il y a ce face-à-face avec le personnage de Franck, mais ce face-à-face entre Gina et Tintin. Et moi, ce que j'ai trouvé une des choses les plus noires dans ce récit, c'est que finalement, l'un, Tintin, Martin, utilise les mots, l'autre utilise son corps. Et on dirait qu'entre les deux, il y a déjà une frontière insurmontable. Gina ne peut comprendre Martin. Martin tente de comprendre Gina, mais il y a une incommunicabilité entre ces êtres qui est absolument terrible, alors que Martin possède le verbe.
Vous avez absolument tout compris. C'est, tout
c'est gentil,
ça.
Merci.
Non, c'est exactement ça, avec des thèmes qui reviennent, que j'ai déjà utilisés, mais qui sont les miens, qui sont le... Je parlais de subir, mais c'est vraiment ça. Moi, je suis toujours effaré et scandalisé parce que les gens subissent. Tintin subit donc la loi des deux autres, mais Gina, comme Franck, subissent la loi du Nord, la loi de la paupérisation, la loi économique, donc, on peut dire. Et la question est toujours, est-ce ainsi que les hommes vivent ? Je veux dire, c'est toujours ça. L'autre chose qui m'intéresse, on parlait de néopolar, c'est que je ne m'intéresse pas du tout aux histoires de crimes sophistiqués, ni à des affaires particulières. Quand on regarde la liste des crimes, 95% des meurtres et des crimes sont des histoires comme celles que je raconte, quoi. Je veux dire, ce sont des gens un peu tordus, pas des truands. Les truands sont très peu intéressants, de toute façon. Par contre, les gens ordinaires, ils peuvent être redoutablement tordus avec, derrière leur front bas et leur aspect de bêtise, une sorte d'intelligence instinctive, animale.
Animale.
Qui est très, très intéressante à étudier d'un point de vue, même pas psychologique, mais carrément psychique, quoi.
Et ce qui est absolument terrible,
j'essaie de rentrer dans l'univers, là, de Tintin, mais aussi assez frontalement dans celui de Gina, et même de Franck, quoi.
Avec le point de vue quand même de Martin qui c'est lui la caméra subjective.
Martin, c'est lui, il est plus dur à percevoir et on le perçoit bien uniquement de l'intérieur. Quoi. C'est poétique, c'est comique aussi, c'est un peu pathétique. Alors que les autres, ils sont dans un univers plus réel où il y a la télé qui malgré tout est du réel, du visuel mais du réel. Ils sont dans un réel qui est aveugle et sourd, quoi. Je pense que ce réel, il l'aime bien quand même, quoi.
On n'a pas l'impression qu'ils sont malheureux. En fait, encore une fois, c'est là le côté très, très noir. C'est-à-dire qu'il y a deux vies, voire trois, totalement ordinaires. Et qu'avec des mots d'ailleurs d'une poésie, on essaiera d'avoir le temps d'en reparler, mais vous décrivez une histoire qui forcément, on sait qu'il va se passer quelque chose de terrible, mais ce qui est terrible, c'est tout simplement leur vie au départ.
C'est... Oui, leur vie, elle est terrible parce que, encore une fois, c'est quand on se déplace un peu, on se demande, oh là là, comment on peut vivre dans des conditions pareilles. Et c'est vrai qu'il y a un tas d'endroits au monde et en France où on n'a pas envie de vivre parce qu'on n'y est pas né. Mais je veux dire, on peut dire ça vraiment de beaucoup d'endroits. Et leurs conditions de vie ne sont guère différentes des conditions de vie de beaucoup, beaucoup de gens. C'est avec la télé, le canapé, pas d'ambition et pas guère de satisfaction, avec un train-train comme ça et les jours passent et les années, voilà, c'est ça leur vie au début.
Et ce qui est très bien ressenti, parce qu'on arrive très bien à voir aussi, et qui m'a beaucoup plu dans ce roman, c'est le fait que Gina et Franck ne sont pas en train de se plaindre, ni Martin d'ailleurs, ou s'il se plaint, c'est pas en tout cas pour ces raisons-là. Eux, ils ont une espèce de pesanteur de la société qui leur est dessus, mais finalement, leur manque de réflexion, leur côté animal, fait que finalement, ils ont leur petite vie pépère et presque heureuse. Ils se contentent de jouir, entre guillemets, avec un double sens de leur vie.
Ils forment pendant un certain temps, d'abord Gina et Tintin, un petit couple. À qui il arrive quelque chose de malheureux. Ensuite, parce qu'au début, ils sont à Calais. Ensuite, ils sont au bord de la mer. Et puis, ils forment très vite un trio, mais qui vit, qui pourrait être raconté de façon un peu cocasse et plus libertaire, où tout le monde est heureux à sa façon. Alors qu'il y a quand même des jalousies, des tensions, et puis la situation se dégrade. Et on voit à quel point c'est pesant pour tout le monde et où cette trivialité dans laquelle ils vivent, cet enfermement, il y a un enfermement qui doit finir par craquer, quoi. Je crois que c'est ça qui les fait craquer, c'est plus l'enfermement qu'autre chose. Il n'y a pas de jalousie vraiment entre eux, c'est pas ça.
Non,
c'est simplement une incompatibilité d'humeur. Et un enfermement, je veux dire, où il finit par y en avoir un de trop, quoi.
Et c'est
encore
face à face.
Encore une fois, on retombe dans le côté animal, où sans qu'il y ait une guerre des chefs, où c'est pas ça, mais il y a forcément un gêneur, quoi.
Il y a un face-à-face qui devient de plus en plus insupportable, finalement. Ouais. Alors, c'est toujours d'ailleurs dans le même sujet, mais il y a des passage entier avec des diatribes, on va dire, vous avez la dent très très dure avec ce qu'on peut appeler les classes moyennes. Vous les malmenez tout au long du roman, les accusant souvent d'être, entre autres, des moutons qui ne réagissent pas ou plus du tout. Ça aussi, c'est un des sujets du roman quand même.
Un des sujets, c'est un des arrière-plans.
Oui.
La classe moyenne, c'est la classe de Tintin. Les autres sont d'une classe... Je dis de Gina, qui est d'une classe au risque. C'est Tintin qui vient de la classe moyenne, qui s'est dissoute, qui est, c'est un peu comme les immigrés de la deuxième génération. Mmh. C'est une classe moyenne qui, à un moment, venait de la classe ouvrière. La classe ouvrière avait une culture. Donc, la classe moyenne avait un peu la culture de la classe ouvrière, encore un petit peu. Et maintenant, elle a perdu même cette culture, cet héritage de cette culture. Et elle est dans une sorte de d'errance où il y a la classe moyenne du haut, celle du bas, et il y en a qui sont cultivés, d'autres moins. Mais on ne sait plus du tout ce que c'est que cette classe moyenne, quoi. Il y en a qui vivent en HLM, d'autres en pavillon. Et puis Tintin a à la fois un peu une admiration pour une ancienne classe moyenne, celle qui avait l'école laïque, où il y avait encore l'ascenseur social, si on peut dire. Et il a aussi le dégoût de ce ventre mou, de cette chose protéiforme. Mais qu'il revendique quand même à son compte, parce qu'il n'a rien d'autre à revendiquer, quoi. Et aussi parce que c'était la classe où son père, c'est aussi son milieu d'origine, surtout par son père, qu'il appelle le général en chef de la classe moyenne, dans le sens où son père était tout ce qui est plus moyen en apparence, mais avec lui aussi un univers psychique bien particulier, puisque ça l'a amené à l'asile, quoi.
Oui, c'était une de mes prochaines questions d'ailleurs, c'est que en filigrane, il y a un des personnages qui est très très important, donc vous venez d'en parler, c'est le père de Martin qui lui a donné en fait toute cette envie de s'exprimer, d'utiliser les mots, de lire les mots des autres, et c'est un très 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 beau personnage. Qui finit à l'asile parce que peut-être qu'il ne peut plus comprendre non plus cette société. Alors, juste avant de parler de l'importance des mots dans vos romans, parce que malheureusement le temps parle vite, je reviens à cette description de cette nouvelle classe moyenne. Vous avez parlé de ventre mou et comment Tintin les décrit. Une petite citation, deux phrases. Ils n'étaient que des consommateurs au goût sucré et à carte Coffinoga, des pousseurs de caddies poussifs dans des grandes ou moyennes surfaces plus ou moins discount, discrédités, surendettés, des pignoufs de masse coincés dans l'ascenseur social en panne et des sportifs de bas niveau, des chiens attachés au cadavre du maître. Vous avez un peu la dent dure quand même. Mais très réaliste.
Oui, non, je le sais. C'est réaliste parce que ce ventre mou, cet énorme marais, ce marécage, est un peu ce qui empêche tout mouvement social en France aussi. Il n'y a pas, on peut rien attendre de d'une pareille classe qui comme d'habitude a envie d'être riche et a peur d'être pauvre. Alors de temps en temps ils se disent ah ça y est on va être riche. En ce moment, c'est la crise, ils disent « Ah merde, on risque d'être pauvre ». Ils sont extrêmement ballottés, donc malléables. Et en même temps, ce manque de culture est à quelque chose qui me fait beaucoup de peine, voilà.
Oui, on le ressent. Alors malheureusement, il nous reste moins d'une minute. Alors je voudrais simplement poser une question. On n'a pas eu le temps de parler du style et Dieu sait si on pourrait passer beaucoup de temps à parler du lyrisme et de la poésie qu'il y a dans vos mots. Mais dans ce livre, il y a beaucoup de citations, en particulier de Blaise Cendrars. Alors pour conclure un peu notre entretien, je voudrais vous demander si les mots des autres vous aident à vivre.
Ah oui. Oui. La poésie, oui, particulièrement. Et puis, bien sûr, oui. Oui, le des phrases, des mots, pas des, enfin, des mots, non, des vers ou des phrases comme ça, je les ai en tête pour toujours, oui, c'est sûr.
Mais en tout cas, moi, je vais vous faire un petit compliment. Vos mots nous aident aussi à vivre. Donc, merci beaucoup, Hervé Prudhon.
Bonjour, merci.
Et puis, à bientôt. Et encore merci de nous avoir consacré cet entretien. Au revoir.
C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
Au revoir. Donc je rappelle juste avant les infos, la langue chienne, Hervé Prudhon à la série noire.